à la fin, quand tout a été pris du monde entier, on revient en terre d'Israël, et ma chère revient. Si on vient ici pour aller en boîte, si on vient ici pour faire une gay pride, donc la Torah est sioniste. Maintenant, il y a un problème. Ben Gurion a dit, à la création de l'État, dans 20 ans, il n'y aura plus aucun religieux dans ce pays. Cet État a essayé de rendre ce peuple goy. L'exil est en Israël avec des juifs à la tête. On est pour l'État, mais tant qu'il est pro-juif, pas qu'on y devient anti-Torah. Ce jour dédié pour la Refoua Shlema, la guérison complète et rapide de Eric Yonatan Ben Odette qui vient de subir une lourde opération Be'ezrat Hashem. La question de Nathan.
C'est quoi la position de la Torah par rapport au sionisme?
Sionisme. Sionisme et Torah. Alors, il faut bien définir qu'est-ce que c'est que sionisme. En fait, sionisme, c'est un amour de la terre de Sion. D'accord? Mais en fait, quand on dit sioniste, aujourd'hui, de façon habituelle, on parle d'un mouvement. Qui aurait été mise en place par Theodor Herzl. Ils ont fait un premier congrès sioniste à Bâle en 1895, qui donc, comme a dit Herzl, si vous voulez, ce ne sera pas une légende. Pas seulement on ne va pas rêver de revenir en terre d'Israël, on revient en terre d'Israël. Et donc ce mouvement a effectivement réussi à créer ici, avec des nations bien sûr, un État en terre d'Israël. Donc on appelle le mouvement sioniste. Ça, c'est donc le mot. Quand on dit sioniste, d'habitude, on parle de cela. Alors, la Torah est sioniste, mais elle n'est pas sioniste. Il faut comprendre de quoi on parle. La Torah est sioniste, ça veut dire qu'elle met un très fort accent sur l'amour de la terre d'Israël. Il est clair que cette terre n'est pas une terre normale comme les autres terres. C'est une terre sainte, qu'il y a une présence divine extraordinaire. Il y a ici une Ashgacha, une providence de Dieu millimétrique. Contrairement aux autres peuples et aux autres terres. Dans les autres terres, même si un juif, c'est écrit dans le traité Ketubot, page 111, qu'un juif qui habite l'étranger, c'est comme s'il est idolâtre. Et la Torah mène un verset, la Gemara mène un verset disant cela. C'est marqué le roi David, il a été chassé, il a dû fuir Shaoul qui le tuait, donc il est parti en région de Gaza, et il a dit on m'a chassé de l'héritage de Dieu, me disant va. Sert des dieux étrangers. Bon, j'avais entendu que le roi David a servi des dieux étrangers à Gaza. D'accord? Alors de là déduisent les sages d'Israël, le simple fait d'habiter à l'étranger, déjà, ça te rend idolâtre à quelques égards. Ne me dis pas si comme ça, ben, je vais à l'église, je vais à la messe, qu'est-ce que ça change? Un peu ou beaucoup. Non. Le principe est le suivant. C'est que chacun des pays du monde est géré par une entité spirituelle qu'on appelle le ministre ou l'ange, d'accord? Que Dieu a mis en place pour gérer cette terre. Maintenant, quand un juif, un bon juif, fait une mitzvah en France, alors la lumière de la mitzvah, elle monte, elle arrive chez le ministre, lui prend un petit impôt, et après le reste va vers Hachem, vers la divinité. Donc il y a un impôt qu'on paye au ministre français, qui n'est pas, c'est pas Dieu, et tout ce qui n'est pas Dieu, c'est considéré comme une idole, à certains égards. Donc, quelque part, on nourrit le côté négatif. Alors, ce n'est pas une bonne raison pour dire, dans ce cas, je ne fais pas de mitzvot. Non, parce que c'est une très petite partie qui va là-bas. L'essentiel va au côté de la sainteté. Mais néanmoins, ça a moins de valeur. À un point tel, je dis, attention, ce n'est pas une raison pour ne pas faire de mitzvot. On doit les faire. Et il y a un mérite là-dessus, etc. Tous les grands tzadikim qui ont habité l'étranger, qui sont restés là-bas et qui ont fait des mitzvot, ils ont un grand mérite, d'accord? Rashi commente, et c'est les sages d'Israël qui disent cela. Il y a un dans le verset, vous mettrez ces textes-là en signe à vos mains et en fronton sur votre front. Donc la mitzvah de tefillin. Une fois elle est au singulier, dans la première paracha, une fois au pluriel, donc dans la deuxième. Là-bas, Rashi commente et dit, quand tu pars en exil, continue à pratiquer les mitzvot. Mets les tefillines, mets le mezouza, mets le tzitzit, mange kasher. Comme ça, quand tu reviendras en terre d'Israël, tu n'auras pas oublié comment on fait. Qu'est-ce que ça sous-entend? Que la raison pour laquelle on doit faire la mitzvah à l'étranger, ce n'est pas parce qu'en soi, la mitzvah, elle a un impact. C'est parce que ça n'a aucun impact. Mais On le fait pour ne pas oublier quand on revient en terre d'Israël. Donc, on entend que c'est en terre d'Israël que ça a un vrai impact. Alors, ce n'est pas comme je viens de dire, parce qu'au ciel étranger, ça a un impact. Mais beaucoup moindre, à un point tel qu'on te dit la raison essentielle pour laquelle tu fais les mitzvot à l'étranger, pour ne pas oublier quand tu reviendras en terre d'Israël. Tu comprends qu'il n'y a pas photo. D'autant plus qu'on a trois parties d'âme, Nefesh, Ruach, Neshama. Chacune est beaucoup plus haute que sa précédente. Chaque être juif qui naît, il a un Nefesh. Maintenant, il y a plusieurs sortes de Nefesh, Ruach, Neshama. Par exemple, à la Bar Mitzvah, il reçoit Ruach. À l'âge de 20 ans, il reçoit un Neshama. Mais il y a d'autres parties des Nefesh, Ruach, Neshama. On a plusieurs Nefesh, Ruach, Neshama. Une qui concerne la terre d'Israël. Celui qui n'a jamais mis les pieds en terre d'Israël, il n'a que Nefesh. Qui qu'il soit, qu'il soit le Chafetz Chaim, qu'il soit le Rav Moshe Feinstein, les plus grands tzadikim, le Gaon de Vilna, d'accord, il n'a jamais mis les pieds en Israël, d'accord, les plus grands tzadikim du monde, quels qu'ils soient, tant qu'ils n'ont pas mis les pieds en Israël au moins une fois dans leur vie, ils n'ont que Nefesh. Il vient une fois en Israël, en touriste, une minute, d'accord, ou plus, et reçoit Ruach. C'est-à-dire que très souvent, des gens qui viennent la première fois, ils viennent en terre d'Israël, ils ont ce qu'on appelle le syndrome de Jérusalem. Ils ont comme ça un choc. Ils vont au côté, ils se mettent à pleurer, ils sont un peu choqués. C'est signe que le Ruach est venu en eux. C'est vraiment quelque chose qui existe. C'est reconnu par les médecins laïcs comme étant une réalité, le syndrome de Jérusalem. Quand ils viennent s'installer en terre d'Israël, habiter là, de façon fixe, ils reçoivent les Neshamah. Un Neshama, c'est des, je sais pas quel chiffre, des milliers, des dizaines de milliers, des millions de fois plus que Nefesh. D'accord, Nefesh, Ruach beaucoup plus, Neshama encore beaucoup plus. C'est-à-dire que la Neshama, ce sont des parties d'âme qui nous permettent d'être en relation avec Hachem de façon extrêmement puissante. Sans qu'on soit en Israël, ça manque. C'est la raison profonde pour laquelle, à l'étranger, on fait deux jours de fête. Pourquoi? Parce que jour de fête, comment on appelle cela? Yom Tov, jour bon. C'est quoi ce jour bon? Qu'est-ce qu'il y a de si bon? On mange bien? Shabbat aussi, on mange bien, d'accord? Ou dimanche, à faire des grillades, ça peut être très bien aussi. Pourquoi on appelle ça un jour bon? Yom Tov, parce que la première fois où la Torah dit le mot Tov, ça va propos de la lumière. Vayar Elohim et Taor Kitov. Dieu vit que la lumière était bonne. On ne parle pas d'un jour où il y a des bonnes choses à manger, on parle d'un jour où il y a du Tov, une lumière divine extraordinaire qui descend du ciel, la lumière divine de la création descend sur nous le jour de fête. Maintenant, à l'étranger, vu que tu as une petite âme, et vu qu'il y a tellement d'écrans à cause de l'impureté de ces pays-là, l'émission ne peut pas arriver en un jour. Elle est filtrée, pff, dans un petit robinet, pic, 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 il faut deux jours. Ici en Israël, trrr, d'accord, c'est un courant de quelques mégatonnes d'eau qui t'a de lumière qui tombe sur la tête. En un jour, c'est terminé. Et les textes, ils écrivent, et peut-être à l'étranger, en deux jours, ils arriveront à faire ce qu'on fait ici en un jour. Peut-être, c'est même pas clair. Il y a une discussion dans les grands rabbins du Moyen-Âge si la mitzvah habitée à terre d'Israël, c'est une mitzvah de la Torah ou une mitzvah des rabbanan, un décret des sages d'Israël. Mais dans tous les cas, c'est super important, comme je viens d'expliquer. Ça, c'est le sionisme authentique. Le peuple d'Israël a été chassé de la terre d'Israël parce qu'il s'est mal comporté. Et plus profondément, on va expliquer pourquoi est-ce qu'on a été chassé de la terre, pourquoi on y revient maintenant. Lorsque le premier homme a péché, énormément de parties de son âme sont tombées dans ce qu'on appelle la klipa, dans les forces du mal, qui n'existaient pas. Elles existaient en potentiel. Le mal n'existe pas, il n'y avait que le bien quand le premier homme il a été créé. Ou si oui, il était extrêmement léger et presque inoffensif, le serpent. Mais néanmoins, lorsque le premier homme a ingurgité le fruit de la connaissance du bien et du mal, comme le serpent lui a proposé, alors il a donné une puissance très forte au mal. Comment? Par le fait que beaucoup de parties de son âme sont descendues dans les forces du mal qui étaient mortes, c'est la mort, le mal, et a donné vie à cette mort. Donc ça fait des morts vivants. D'accord? L'âme du premier homme, c'est des parties divines, donc c'est la vie. Lorsqu'on va inoculer de la vie à un mort, ça en fait un mort vivant. C'est quoi un mort vivant? C'est Titus, c'est Staline, c'est Khamenei, c'est Hitler, d'accord? Tous les grands morts vivants de l'histoire, tous les maîtres du mal qu'il y a, grands ou petits, d'accord? Ce sont des morts qui ne devaient pas exister, mais qui ont reçu une partie d'âme, qui l'ont rendu vivant. Maintenant, une fois qu'il est vivant, vu qu'il lui, sa base, c'est le mal, c'est la mort, donc il veut la mort, il veut le mal, c'est un homme, un militant du mal. Le job du peuple d'Israël était que par les mitzvot, l'application de mitzvot, par l'étude de la Torah, on fasse remonter toutes ces étincelles, on les sort du mal, et comme ça le mal se retrouve sans aucune étincelle de vie, et il meurt, il n'y a plus de mal dans le monde, c'est l'époque messianique. Et à la base, ça va être toute l'humanité qui devait faire ce job-là. L'humanité a été d'échec en échec. C'est pour ça que la Torah nous raconte l'histoire de l'humanité, de façon extrêmement non historique, d'accord ? Si c'était un bon bouquin d'histoire, ben on aurait eu l'histoire, je ne sais pas moi, des conquérants mongols, Genghis Khan, d'accord, de l'histoire des Africains il y a 3000 ans, 4000 ans, on n'en parle pas. On te parle, premier homme, après ses enfants, le petit-fils, Seth, après déluge, Sodome et Gomorre, la tour de Babel, Abraham. Quoi, c'est ça toute l'histoire ? Réponse non, ce n'est pas un bouquin d'histoire, c'est un bouquin à la Torah qui va t'expliquer le sens du monde. On se dit que l'humanité devait arriver à reprendre les étincelles de sainteté tombées dans le mal, ils ont fait exactement le contraire, ils ont fait descendre encore plus. Le petit-fils de Adam, Seth, son époque, l'humanité a commencé à pratiquer l'idolâtrie. Après le déluge, là tu avais tout à la fois, l'idolâtrie, la débauche, le vol, tout ce que tu veux. Sodome et Gomorre, encore pire, la tour de Babel, ils vont se révolter contre Dieu. Donc ils étaient d'échec en échec, il fallait réparer tout cela. Dieu a vu que l'humanité n'arriverait pas à le faire. Alors, il y a un qui a réussi à le faire, ça a pris 2000 ans cette époque-là, c'était Avraham Avinu. Avraham Avinu est né en 1948, pas la date de création de l'État d'Israël, c'était la 1948 de la création du monde, et né Avraham Avinu. Donc, en l'an 2000, il avait 52 ans, et il commence son périple, et lui proclame le vrai Dieu. De lui va sortir un peuple, Abraham, Isaac et Jacob, le peuple d'Israël, qui auront comme mission, eux, spécialement, de faire ce job qui incombait à l'humanité à la base, de ramener toutes les étincelles de sainteté. Plus profondément, le peuple d'Israël seront les réincarnations de tous ces pécheurs de ces quatre générations et vont aller en Égypte souffrir. Parce que si on ne fait pas le job de ramener les étincelles de sainteté par l'étude de Torah, par les mitzvot, on le fait par la souffrance. Comment ? Soit quand tu lis la Torah, ça a tellement de sainteté, ça fait éclater la force du mal, tu as une force du mal, une clipa, une écorce, d'accord, dans laquelle tu as une étincelle de vérité divine. Soit par l'application des mitzvot, par l'étude de Torah, ça amène tellement de sainteté, pouf, elle éclate, elle ne peut pas, et l'étincelle repart. Soit tu ne fais pas ça, et le mal maintenant, il a une puissance divine en lui de faire le mal. Alors il va faire tout ce mal-là. Une fois qu'il a fait, il n'a plus de puissance, il est mort. C'est quand il a 10 litres de carburant, 10 000 litres, une fois que ce carburant a été déversé, d'accord, a été brûlé, il n'y a plus rien. Et le mal disparaît. Il y a deux moyens de faire disparaître le mal. Soit par le bien que nous faisons, soit par le mal qu'on va souffrir. Quand on souffre, alors le mal, il a épuisé sa puissance et il n'y a plus l'étincelle de sainteté, elle repart dans la sainteté. Le peuple d'Israël a souffert un esclavage 210 ans en Égypte et au bout de 210 ans, ils étaient nickel. Ils sortent d'Égypte, c'est marqué qu'ils l'ont fait comme un fond marin, sans aucun poisson. Notre avis dit comme une grange sans aucune graine. Ça veut dire quoi ? Ils ont tout pris. Qu'est-ce qu'ils ont pris ? Ils ont raflé, pas l'argent. Ils ont pris aussi un peu de l'argent, mais ça ne sert à rien du tout, on s'en fout, d'accord ? Ils ont raflé toutes les étincelles de sainteté. Les Juifs, c'est le centre du mal. C'est pour ça que Pharaon ne pouvait pas laisser les Juifs sortir, parce que le moment où les Juifs sortaient avec étincelles, lui, il s'éteint, terminé, il est mort, il n'a plus aucune puissance. Alors c'est ce qu'ils ont fait, ils ont pris toutes les étincelles de sainteté, ils sont arrivés au Mont Sinaï, et là on était au niveau du premier homme avant le péché originel. Extraordinaire. Fini. Mais c'est fini que pour 40 jours. 40 jours plus tard, Vaudor, perpétré par le Erev Rav, une partie négative du peuple juif, et boum, on retombe dedans, toutes les étincelles qui retombent dans le mal, et voilà. Ok, le peuple juif arrive en terre d'Israël. Avec la sainteté de la terre d'Israël, le temple qu'il y avait ici, ils auraient dû être capables, à distance, de ramener toutes les étincelles de sainteté éparpillées dans le monde entier. Mais le peuple juif est un peuple à la nuque raide, ils continuent à faire des bêtises, débauches, idolâtrie, machin. Et leur aspirateur d'étincelles de sainteté à distance, il devient bouché, ça ne marche plus. Donc Dieu dit, ok, chers amis, ça ne marche pas, le job il faut le faire, je vous envoie sur place, vous partez. Exil. Premier exil, deuxième exil, et des juifs, il y en a dans le monde entier, comme c'est écrit dans Deutéronome 28, et Dieu te dispersera d'un bout du monde à l'autre. Partout il y a des juifs. Pourquoi ? Parce que partout il y a des étincelles de sainteté. T'en as au Maroc, t'en as en Espagne, t'en as en Ukraine, en Russie, en Amérique du Sud, on est en Afrique du Nord. Partout, il y a Coca-Cola, il y a Chabad qui arrive aussi là-bas, il y a des juifs. Et par leur souffrance, ou par l'étude de Torah et Mitzvot, il ramène toute la celle de sainteté. Quand on arrive à la fin, par exemple, on va dire, en Espagne, il y avait une communauté juive florissante, d'accord? Ils ont amené comme ça, ils ont ramené toutes les saintetés qui vont en Espagne, puis un beau jour, en 1491, la reine Isabelle dit, ok, tout le monde dehors. Bon, tout le monde dehors, ça veut dire qu'on a fini le boulot, il n'y a plus d'étincelles. Dépression du pays, c'est, d'habitude c'est parallèle. Lorsque les juifs partent, dépression parce qu'il n'y a plus d'étincelles, donc il n'y a plus rien, il n'y a plus d'économie, machin, ça devient un pays de pauvres types. D'accord? Le président de Tunisie a invité il y a quelques années les juifs à revenir en Tunisie. Il a bien compris, quand il y avait c'était prospère, ils sont partis, il n'y a plus rien. Alors c'est pas que c'est des bons businessmen. Au niveau mystique, les étincelles sont présentes, donc il y a une énergie divine qui est là, donc ça prospère, il y a de l'activité. Ils partent, il n'y a plus rien, mais très très peu. D'accord? À la fin, quand tout a été pris du monde entier, on revient en terre d'Israël, et Mashiach revient. Maintenant, chacun a les étincelles personnelles à lui-même, qu'il doit ramener. Chacun, dans le corps du premier homme, il y avait donc toutes les âmes à venir, et chacun de nous provient d'une autre partie du corps du premier homme, du corps spirituel du premier homme. Donc chacun de nous, il a certaines étincelles qui le concernent à lui. Soit que tu es né en France, tu es né en Tunisie, tu es né au Maroc, qu'est-ce que j'en sais, chacun en fonction de l'endroit, ses parents, etc., il avait un boulot à faire avec ses propres étincelles. Tant qu'il n'a pas ramené ses étincelles, il peut faire ce qu'il veut. Venir en Israël, ça ne marchera pas. Où il vient, il repart, il a encore des miettes, des étincelles à ramener là-bas, d'accord? Donc il doit rester là-bas. Quand j'ai eu les séminaires à l'époque, ça avait beaucoup d'impact. Les gens nous ont dit, alors pourquoi vous disiez aux gens de faire tchouva? Dites-leur de venir en Israël. Je dis, ça ne sert à rien. Parce que je peux lui dire, il veut venir en Israël, mais il ne peut pas, d'accord? La majorité des juifs francophones qui ont une identité juive, ils rêveraient d'être en Israël. Mais ils ne peuvent pas, le boulot, les machins, le truc, la grand-mère qui est malade, qu'est-ce que j'en sais? Chacun a des bonnes raisons. C'est Dieu qui empêche. Pourquoi? Mon cher ami, tu as un boulot à faire là-bas d'étincelles, il faut les ramener. Tu ne feras rien pour le moment. On va faire autrement. On va les aider à ramener les étincelles. Quand il va faire tchouva, il n'y a pas de chose qui ramène plus d'étincelles que la tchouva. Les étincelles, il faut expliquer, c'est la dernière lettre du nom de Dieu, qui part en galoute. C'est la shrina, d'accord? Qui est en galoute, qui est en exil avec le peuple d'Israël. Tchouva, c'est tchouva, hey. C'est contraction de deux mots. Tchouva, qu'on revienne, hey. Ce « Hey » du nom de Dieu qui est en exil, quand tu fais tchouva, tu ramènes ces étincelles. Donc le type fait tchouva, il commence à faire Shabbat, il s'éloigne des filles, il commence à prier comme il faut bien, il ramène toutes les étincelles. Et d'habitude, quelques années après, ou même quelques mois après, terminé, fiche le camp, qu'il veuille ou pas, un coup de pied, on le fout dehors, et il arrive en Israël. C'est le meilleur moyen, le vrai sionisme, c'est convaincre les gens de pratiquer la Torah à l'étranger. Comme ça, quand ils pratiqueront, ils finissent leur job d'étincelles et ils viennent. Et actuellement, on voit que le peuple d'Israël est en train de revenir, c'est qu'on est très proche de la fin, et Mashiach revient. Mashiach revient quand toutes les étincelles sont revenues, juste avant. D'accord? Parce que c'est lui qui fera le dernier acte pour que tous les juifs reviennent en terre d'Israël. Donc la Torah, elle est super sioniste. Elle a un amour de la terre d'Israël extraordinaire. On ne peut pas quitter le Rambam Maïmonide. Il dit on peut quitter la terre d'Israël, c'est la Lacha, on peut quitter la terre d'Israël pour quatre raisons. Un, pour se marier et revenir. Il dit revenir, pas que tu restes là-bas avec Jennifer à New York ou avec Christine Christine juive, une juive, bah, tu vas pas me courir, d'accord, avec Rachel à Paris, d'accord, tu reviens en Israël. Elle étudie la Torah, tu essaies tout le rabbin ici, tu n'as aucun qui te va, mais tu as un super bon rabbin là-bas à Créteil, tu vas, mais après tu reviens, d'accord, pas étudié toute ta vie, tu reviens après en Israël. Aller sauver des juifs de Goïm qui veulent leur faire du mal, quatrième, si c'est la famine. Tu t'en sors pas ici, tu t'en sors pas, tu fiches le camp, ok, et revenir après. Et là-bas, le rabbin cite, c'est dans Megillat Ruth, il y avait donc la femme, le mari de Ruth, et sa belle-sœur s'appelait Orpa, elle avait deux juifs qui étaient des grands de la Torah, c'était Machlion et Chilion, qui étaient les fils de Elimelech. Elimelech a eu la famine ici en terre d'Israël, il a quitté avec sa famille, sa femme Naomi, ses deux enfants, Machlion et Chilion, sont allés en terre de Moab. Le rabbin dit, il a le droit, mais pour un homme pareil, de calibre pareil comme Elimelech, qui est un grand sadique, même pas! Il est mort, ses deux enfants sont morts. Trois veuves pour quitter la terre d'Israël. Terrible! Donc c'est certain que la Torah met un accent extraordinaire sur la terre d'Israël. Mais attention, c'est le palais du roi. Si on vient ici pour aller en boîte, si on vient ici pour faire une gay pride, si on vient ici pour transgresser le Shabbat, c'est exactement le contraire de la manœuvre. C'est pire! C'est pire parce que toute la raison qui a provoqué notre exil, c'est parce qu'on faisait des péchés ici en terre d'Israël. Reste là-bas, t'es dans les toilettes, d'accord? Ça va. Quelqu'un qui fait des péchés dans les toilettes, c'est moins grave qu'en face du roi. Tu fais tes besoins devant le roi, ça c'est pas. Ici, t'es en face du roi. C'est un pays, comme j'ai dit, où il y a une présence divine extraordinaire. La Shrina est extrêmement présente. Il y a des gens qui sentent ça. Moi, j'ai une tante, super anti-religieuse. Elle va une famille religieuse à la base, mais là, elle a tout plaqué, d'accord. Elle habitait Jérusalem, mais elle dit, je ne supporte plus. Elle va à Tel Aviv, elle habite dans les endroits les plus malfamés de Tel Aviv. Et ils ne supportent pas Jérusalem. Ils sentent. Il y a un Kedusha. Il y a un autre qui, quand il rentre à Tel Aviv, c'est Burk, d'accord. T'arrives à Jérusalem. Enfin, on sent la sainteté, d'accord. J'ai un copain à Yeshiva, il m'a dit, pourquoi tu fais des séminaires? Dis à quelqu'un de venir à Jérusalem dans un quartier orthodoxe, il va au mikvé avant Shabbat, il sent Dieu. Pas besoin, c'est palpable, d'accord. Donc la Torah est sioniste. Maintenant, il y a un problème. J'en ai parlé dans les cours aussi dernièrement, donc c'est peut-être un peu dommage de reparler, mais on va faire en très court. Il y a une partie du peuple d'Israël qui s'appelle le Erev Rav, c'est eux qui ont fait le veau d'or. Ce sont des Nechamot et des âmes qui sont à mi-chemin entre le Goy et le Juif. Ils sont juifs. Et eux, leur but, c'est de rendre le peuple juif Goy. D'accord. Donc, en conséquence, il y a beaucoup de malheur sur le peuple juif. Les non-juifs ont essayé pendant 2500 ans de faire en sorte que le peuple juif disparaisse. Tous les pogroms qu'on a subis, tous les autos d'affaires, tout cela, ils n'ont pas réussi. Après la Shoah, ils ont vu, même Hitler, il a essayé, il a perdu. Il a quand même pas mal réussi, un tiers, mais quand même, deux tiers qui sont toujours là. Alors, ils ont décidé de faire une chose beaucoup plus vicieuse. De façon consciente ou pas, je ne sais pas, c'est pas clair. Dans les écrits, on en parle, c'est pas clair si c'est conscient ou pas. D'accord. Ils ont donné la terre d'Israël, mais au mouvement sioniste athée, anti-religieux. Disant que nous, on n'a pas réussi à faire de rendre ce peuple goy, eux vont réussir. Et ils ont failli réussir. Cet État-là est un État qui était basé, pas de façon laïque, pire, contre la Torah. Contre la Torah. Ben Gurion a dit, à la création de l'État, dans 20 ans, il n'y aura plus aucun religieux dans ce pays. Il n'y avait que 200, ça va, c'est pas énorme. Il a dit plus rien. Il y avait, il y a encore, mais il y avait, je me souviens dans ma jeunesse encore, j'étais choqué, je suis arrivé ici, c'était en 79, d'accord. Comme les médias, la télévision, les radios, c'était orienté anti-religieux, anti-religieux, sans cesse, sans cesse. Et les souffrances qu'ils ont vécues, les religieux ici, terribles. Je me souviens qu'il y avait des manifs, mais comme il les matraquait, c'était terrible. J'ai dit, mais c'est affreux, mais comment les nations du monde ne voient pas? Quelques semaines plus tard, a commencé la première intifada. Les mêmes flics qui matraquaient sur les juifs religieux, ils matraquaient sur les palestiniens. Mais là, toutes les photos, tous les films, tout le monde entier qui venait les filmer. En deux mots, cet État a essayé de rendre ce peuple goy. C'est écrit qu'il y a trois clipotes, il y a trois forces du mal. Une correspond à Ishmaël, monde oriental, une qui correspond à Esav, au monde occidental, et une qui est dans le peuple juif aussi. C'est la dernière, le dernier exil. On avait un exil parmi les nations, c'est terminé. Il n'y a plus aucun endroit au monde où les juifs sont en exil. L'exil est en Israël, avec des juifs à la tête. Anti-juifs, anti-Torah, comme a dit un ministre dernièrement, Katz, si ça s'appelle, il a dit, on a entendu des propos antisémites de la part de Lieberman, comme on a entendu des plus grands ennemis du peuple d'Israël. Un ministre ici, le ministre des Finances en Israël, il parle comme un des plus grands antisémites de l'histoire. C'est terrible. C'est leur fin très bientôt, parce qu'ils n'ont pas réussi. Dieu a fait un miracle extraordinaire, que les gens commencent à faire tchouva. Un des plus grands balais tchouva, il est décédé il y a une dizaine de jours, Uri Zohar. C'était le acteur israélien. Ils faisaient des sketchs, ils avaient fait un sketch qui se moquait des religieux. J'ai vu ce sketch dans ma jeunesse, d'accord. Ça s'appelle le concours du Tanakh. On voit des religieux comme ça, concours, faut connaître. Et ils se moquent des religieux, ils se moquent. Et il avait son mission hebdomadaire à la télévision, puis un jour il vient avec une kippa sur la tête. La blague. Tout Israël éclate de rire. Il dit, qu'est-ce qui t'arrive? Je fais tchouva. C'est un dernier sketch, les dernières blagues de Uri Zohar. Bon, une semaine kippa, deux semaines kippa, un mois, six mois, tout le monde comprend qu'il a fait tchouva. Le Kiddush Hashem, la sanctification du nom de Dieu qu'il a fait. Combien de milliers ont fait tchouva après lui? Il faut comprendre. Des plus grands du peuple juif ont fait, les pilotes d'avion. Le plus grand tombeur de MiG, il a battu 91 MiG. Il a fait tchouva. C'est une perte terrible. Alors ils ont commencé à faire des masques à l'armée, des masques à gaz d'oxygène dans les avions, d'accord, supportant la barbe. Et puis les plus grands acteurs, et etc., etc. Il y avait un grand chanteur, Arik Einstein, il s'appelait. S'il avait fait tchouva, tout un Israël aurait fait tchouva. C'était l'idole. Très très bon, très grand chanteur israélien. Sa fille a fait tchouva. Et c'est marié avec le fils de Uri Zohar. Et Uri Zohar lui était les meilleurs copains. Et vous aurez lui parler, fait tchouva. Il n'a pas eu le courage. D'accord. En tout cas, il y a un mouvement encore actuel de tchouva énorme de plus. Comme a dit le Razonich à l'époque, Razonich était contemporain de Ben Gurion. Il a dit, Ben Gurion dit, il n'y aura plus aucun religieux, nous on fait des enfants. La moyenne de natalité des orthodoxes en Israël, c'est 7,2 enfants. Alors que chez les non-religieux, c'est 1,7 et des fois, il y a un chien aussi. D'accord? Donc, tu vois, et en plus, les non-religieux, très souvent, quittent Israël. Qu'est-ce qu'on a à faire ici? On va aller en Amérique, il y a 3 à 4 millions d'Israéliens, pas de juifs, d'Israéliens qui sont en Amérique. Parce que si c'est un pays dur, difficile, là-bas, ils croient qu'ils vont avoir l'argent en se baissant par terre, ils auront des dollars. Donc, le monde religieux est en train de grandir. Et le mouvement sioniste athée est en train de mourir. Ils ne sont pas contents du tout, ils font tout pour empêcher, mais ils ne réussiront pas, très bientôt viendra Machiach. C'était la dernière bataille. C'est marqué qu'Abraham, le mérite d'Abraham, c'était par rapport à la Klipa, à la force impure orientale. Yitzhak par rapport à Esav, son fils Esav, occidental. Yaakov's étude de Torah, c'était le plus grand des patriarches, c'est lui dont les maîtres ont besoin pour la fin des temps, la bagarre contre Erev Rav. Tellement la bataille, elle est dangereuse, elle est dure, d'accord ? Qu'ils ont créé tout bon juif aujourd'hui qui aime le peuple d'Israël, alors il aime la terre d'Israël, donc il aime l'État, donc il est pour l'armée, donc beaucoup de choses. Et c'est très très fin parce que oui et non, on est pour l'État, mais tant qu'il est pro-juif, pas qu'on y devient anti-Torah. Mais les gens ne font pas la différence à l'étranger. Tu ne peux pas parler. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais dire, je ne peux pas dire, parce que les gens ne vont absolument pas comprendre. Comment les gens, même des fois, quand il y a des choses qui sont anti-juives, en Israël, ils m'attaquent à moi, mais comment vous laissez faire des choses pareilles? On n'est pas chez nous, d'accord? On n'est pas chez nous. Il y a une usurpation du pouvoir par des gens anti-religieux. Il faut comprendre qu'il y a deux aspects. Alors, les gens commencent à comprendre un peu plus aujourd'hui. Ils ont failli réussir à faire un nouveau peuple d'Israël. Nouveau! Avec un rythme, disons le Shabbat, toujours le jour de congé, c'est pas le dimanche ou le vendredi comme les Ishmaélites ou les chrétiens, c'est le Shabbat. Un jour de congé où on fait des brochettes, d'accord, on fait Chilou Shabbat, etc. Alors ils ont un rythme juif, mais plus de vraie Torah. Et Baruch HaShem, Dieu ait pitié de nous, que la vraie Torah est en train de grandir et les gens sont sensibles à la vérité, font tchouva, se rapprochent de Dieu, donc revenons aussi en terre d'Israël et très bientôt Machiach viendra pour nous sauver de tous les menteurs. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.